Faudra que ton angoisse pareil si se passe. Voilà l'intraveineux. Ta solution à cœur. C'est ça la médecine.
Je veux faire la guillotine.
C'est ça la médecine.
Je veux
faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio, la fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Pour commencer, nous allons faire une plage musicale et je reviens tout de suite.
It's really quite a joke. I see him down the road. I asked if he'd be willing to lend me 15B. I'm dying for a smoke. I'm just as sane as anyone. It's just a game I play for fun. For fun. I told him, look, I said, I'm not the way you're thinking. Just when I'm down, I'll be the clown. I'll play the fool. I'm just as sane as anyone. It's just a game I play for fun. For fun. My cage.
On vient d'écouter Supertramp, Asylum, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Aujourd'hui, nous allons, nous invitons André Bitton, le président de l'association CRPA, le Cercle de Réflexion et de Proposition d'Action sur la Psychiatrie. Bonjour André.
Bonjour.
Et donc, nous allons parler de contention aujourd'hui, et de d'isolement et de contention, voilà.
Voilà, donc il y a du nouveau sur l'isolement et la contention. Tout d'abord parce que par décision du 26 janvier 2023, la Cour de cassation, première chambre civile, a décidé d'envoyer au Conseil constitutionnel deux nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité portant sur deux points de droit relatifs à l'isolement et la contention, telle que réformée pour la deuxième fois par législation du 14 janvier 2022, suite à deux décisions préalables de censure du Conseil constitutionnel du premier dispositif introduit par la loi Touraine du 26 janvier 2016, qui avait introduit une traçabilité de l'isolement et la contention. La première décision de censure du Conseil constitutionnel était intervenue le 19 juin 2020, entraînant une judiciarisation partielle à la demande des maintiens en isolement contention. La deuxième censure ayant été prise par le Conseil constitutionnel le 4 juin 2021, en vue d'introduire un contrôle judiciaire systématique des maintiens en isolement contention. Donc, les deux nouvelles QPC envoyées au Conseil constitutionnel, qui seront statuées début avril, vraisemblablement, portent d'une part sur le défaut d'information dès le début du patient, de la personne qui est mise en isolement avec ou sans contention. C'est-à-dire que, normalement, une personne qui est mise en état d'arrestation et privée de liberté doit être immédiatement informée de sa situation juridique et de ses droits, notamment de ses voies de recours. Et là, le décret qui avait été pris en application de la deuxième réforme ne prévoyait l'information du patient que pour le renouvellement.
Oui. Donc il y a. On peut rappeler aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'une QPC. C'est une question prioritaire de constitutionnalité. C'est-à-dire poser une question au Conseil d'État.
Conseil constitutionnel.
Au Conseil constitutionnel lorsqu'on trouve qu'une une loi ou un article de loi n'est pas conforme à la Constitution.
Voilà, c'est ça. Alors c'était une disposition introduite par la réforme de la Constitution de 2008. En même temps qu'il y avait un serrage de boulons considérable sous la présidence de Nicolas Sarkozy de 2007 à 2012. Et il avait été introduit, c'était une vieille revendication, un vieux serpent de mer. Et normalement, ça aurait dû être sous Mitterrand que cette réforme aurait dû être prise, que des justiciables en cours de procédure puissent demander à la juridiction devant laquelle ils sont l'envoi à une juridiction filtre, Cour de cassation ou Conseil d'État, de sorte que cette juridiction filtre envoie éventuellement au Conseil constitutionnel une question sur l'examen de la constitutionnalité du texte de loi ou de l'article de loi qui est opposé au justiciable au cours d'une procédure. C'est-à-dire un moyen de défense, un moyen de défense ou un moyen d'attaque et un moyen surtout de dire, ce qui est très important, que telle disposition législative ancienne ou récente qui a été prise par le gouvernement, par le Parlement ou par ordonnance, bien, et qui n'a pas été soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, de pouvoir dire cette disposition qui m'est opposée est inconstitutionnelle, veuillez l'abroger. Or, oui. Ça avait permis d'abroger les dispositions de la vieille loi du 30 juin 1838, décision QPC Conseil Constitue 2 décembre 2010, et d'abroger d'amples dispositions de la loi du 27 juin 1990 sur l'hospitalisation sans consentement, qui avait réformé comme ça à la marge la loi de 1838 par des décisions successives de censure du Conseil constitutionnel, notamment du 26 novembre 2010. Donc bon, bref, il va y avoir du nouveau, mais pour l'instant, donc notre action est constituée en intervenant au soutien des requérants dans les deux QPC. Il va y avoir des syndicats judiciaires, syndicats et autres avocats de France qui vont intervenir. C'est très bien que les professionnels, que les corporations et les professionnels du droit interviennent dans la matière. Ça prouve qu'ils se sont emparés de ce terrain, certes en nous mettant de côté, mais nous sommes d'humbles malades mentaux, donc on devait tôt ou tard être éjectés du terrain et être objet de sollicitude et pas sujet de nos histoires et de nos combats. Mais auparavant, il y avait eu une surprenante dépêche de Spi Media, une agence de presse spécialisée, du 20 janvier 2023, titrée « Des chercheurs se penchent sur les hôpitaux français, zéro contention en psychiatrie ». Et le résumé de cette dépêche, c'est « Près de 15% des hôpitaux autorisés aux soins sans consentement en psychiatrie ne recourraient jamais ou quasiment à la contention. Des chercheurs mandatés par le ministère de la Santé et par leur tutelle se rendent en immersion dans plusieurs établissements pour identifier les leviers de ce non-recours. » Alors ça interroge, puisque on est amené 15% seulement des établissements habilités en psychiatrie en France ne pratiquent pas ces horreurs que sont l'isolement et la contention, qui sont mais des horreurs. Alors qu'il y a 30 ans, c'était l'inverse, très peu d'établissements en France pratiquaient l'isolement couplé à la contention. Donc alors, c'est devenu tellement à la mode dans la psychiatrie contemporaine d'isoler les personnes et de les ligoter sur leur lit, qu'en quelque sorte, c'est devenu tellement étrange et bizarre, inusité, qu'on puisse se passer de contention dans un service de psychiatrie, qu'une équipe de chercheurs sociologues, qui ont aussi la casquette d'anthropologues, voire et qui peuvent être versés en ethnologie, sont missionnés pour étudier les mœurs de cette tribu arriérée, qui ose encore de nos jours, par défi à la modernité, ne pas isoler et ligoter sur leur lit les malades. Donc cela suppose une étude quasi-ethnologique en France même, à l'intérieur des terroirs et dans les établissements psychiatriques, pour interroger enfin cette tribu arriérée et de nous faire, à nous, autorité, un savant rapport pour qu'on puisse se pencher sur cette question et se demander comment ils font. Comment vous faites pour ne pas isoler, contentionner, etc. C'est vraiment bizarre. Alors moi, je trouve ça, je ne suis pas le seul, je trouve ça absolument choquant qu'on en soit là. Cela signe le vent arrière de la psychiatrie française, le fait que la barbarie institutionnelle s'est installée de façon cynique, avec tout un blabla, une novlangue, mais carrément dominante. Alors, donc, je reprends le texte de cette dépêche, parce que c'est quand même assez stupéfiant. Quels sont les leviers et les facteurs expliquant que les hôpitaux autorisés en psychiatrie en arrivent même à ne pas recourir aux mesures de contrainte, isolement et contention? Non mais on est stupéfait devant le cynisme de cet exposé, puisque ce qui devrait être l'exception d'après les textes est devenu la règle. Parce qu'en plus, il faut savoir que, un, les mesures de contrainte sont censées être l'exception par rapport au régime libre. Or, dans la plupart des établissements, pratiquement la moitié des patients sont sous contrainte. Bon, alors que le régime libre devrait être la règle. Et d'autre part, les mesures d'isolement contention sont des mesures de dernier recours.
Oui.
Bon, donc c'est-à-dire que l'exception de l'exception devient en quelque sorte la règle. Donc on se pose des questions. Près de 15% des établissements habilités aux soins sans consentement en France déclarent ne pas recourir à la contention, indiquent les procédants engagés dans le projet de recherche Plaid Care, mené avec une équipe pluridisciplinaire, sciences infirmières, sociologie, géographie, anthropologie. Y compris une équipe d'anthropologues. C'est-à-dire que, pour de bon, l'anthropologie, il faut voir, s'est développée avec l'ethnologie au début du XXe siècle, au plein feu de l'emprise coloniale sur la planète. Bon, soyons clairs. Donc, ce projet a pour objectif de mieux comprendre le fonctionnement de ces établissements. On t'a expliqué le 18 janvier, lors du congrès de l'encéphale, parce que de toutes les façons, notre psychisme, notre âme, nos volontés, etc., sont réduites dans l'encéphale. Ce qui, géographiquement et morphologiquement, est exact, mais au plan des droits et de l'humanité, ça, c'est une autre paire de manches. Mais enfin, bon. Magali Koldefi, chercheuse associée à l'Institut de Recherche Documentation en Économie de la Santé, IRDES, que j'ai bien connue, puisque j'ai été approché dans le cadre de ses travaux, pour devenir, puisque mon expérience a été fascinante, un singe cobaye, singe macaque, à qui on extirpe son expertise pour que nous, chercheurs, on puisse en faire quelque chose. Bon, donc, bien, et ainsi que Sébastien Saétain, ingénieur hospitalier au CHU de Saint-Étienne-Loire, le service de psychiatrie de Saint-Étienne, ils font des horreurs, ils ont une recommandation en urgence en 2017, du CGLPL, chargé de plusieurs programmes de recherche en lien avec la psychiatrie. Donc 31 hôpitaux déclarés sans contention, je crois qu'il y a 240 établissements en France habilités à la psychiatrie, à la contrainte psychiatrique. En premier lieu, des repères épidémiologiques récents sur l'isolement contention ont été détaillés par Magali Koldefi, qui a souligné la qualité et l'exhaustivité croissante des données grâce au recueil spécifique intégré depuis 2018 au recueil d'informations médicalisées pour la psychiatrie RIM, le RIMP. C'est un système de cotation d'actes qui a été introduit avec la tarification à l'activité à la fin des années 2000, laquelle ne s'appliquant pas en psychiatrie, on avait laissé tomber cette grille, mais il fallait bien évaluer pour la valorisation des actes en psychiatrie, le financement des activités en psychiatrie, il fallait bien évaluer ça, donc on a systématisé le RIMP, c'est des cotations d'actes. Alors, ce qui est bien, c'est que Magali Koldefi, chercheur statisticienne émérite, géographe TAG, directrice de recherche, habilitée aux recherches, au doctorat, dit bien que, et de souligner la remarquable exhaustivité de plus en plus grande des données. Mais je veux dire, pour les patients qui sont ligotés, on s'en fout d'exhaustivité des données. On voudrait bien que ça cesse un peu, hein. C'est surtout ça. Or là, on fait de savantes études d'année en année dont il ressort qu'il faudrait éventuellement que le nombre de ces actes barbares diminue. Et en réalité, on n'arrive à aucune diminution. Mais on va de colloque en colloque et de publication savante en publication savante. Point. Un progrès. Très français. Alors, Magali Koldefi a également mis en avant la grande variabilité du recours aux mesures de contrainte, déjà mise en lumière dans des études passées. En 2021, le recours à l'isolement, a concerné, selon CD, 14% des personnes hospitalisées en établissement autorisé en psychiatrie. Ce taux variant de 0 à 30% selon les établissements. Près de 4% des patients hospitalisés dans ces hôpitaux en 2021 auraient subi une contention mécanique. Bon, c'est-à-dire que sur, il y a à peu près, 4%, il faut voir sur quoi, sur le stock ou sur le flux, hein, parce Parce que dans les statistiques, il y a un problème de stock, autrement dit, les personnes présentes et les personnes qui passent, c'est les flux. Hein, et la combinaison du tout, bon. Donc, bon. Un non-recours à la contention est déclaré par 31 établissements sur 219, non pas 240, 219 hôpitaux habilités aux soins sans consentement. Il existe également certains services ou secteurs sans contention. Dans ce contexte d'importante disparité du recours à la contrainte, la recherche Plaid Care, autrement dit c'est le nom du programme de recherche, vise donc à identifier les acteurs, les outils, les savoirs, les compétences et les formes d'organisation, de coordination et de coopération qui influent sur le niveau de recours. Elle veut aussi mieux comprendre les effets des politiques de moindre recours sur les parcours de soins et sur le vécu des patients et des professionnels. Il ne s'agit pas d'être efficace et d'arriver à une nette diminution de ces pratiques, voire une résorption, il s'agit de mieux étudier ce processus.
Oui, avec dans le but de rendre plus attractif la psychiatrie française ou des choses comme ça.
Alors justement, chez moi, j'ai commencé d'interroger les gens autour de moi, notamment le journaliste qui a écrit cette dépêche. Bon, j'ai écouté, est-ce qu'il s'agit, comme ça a été le cas dans certains services de province, comment dire, d'étudier plus avant comment ça fonctionne là où il n'y a pas de contention pour foutre en l'air des équipes et pour les réprimer. Est-ce que c'est pas ça? Parce que quand même, ce qui s'est passé avec l'équipe de Mathieu Bellassène sur Asnières, elle a été complètement démembrée. Il y a eu un autre service qui se passait de la contention en province qui a été cassé par l'ARS. Donc leur verbiage, leur blabla, c'est quoi au juste? Ça rime à quoi? Quand on sait que les progrès que nous obtenons en matière procédurale, en matière de jurisprudence notamment, servent, enfin à un moment donné, les pouvoirs publics s'en servent pour foutre en l'air les hospitaliers.
Oui, peut-être la mise en place d'une psychiatrie répressive
au lieu et place. La psychiatrie à plusieurs vitesses.
Oui.
Parce que l'éternel but des pouvoirs publics, depuis maintenant des décennies, c'est de facto la privatisation du système de santé en général, bien, et de la psychiatrie en particulier, où l'on réserve à la psychiatrie publique la pure et simple répression dans la tradition asilaire, et pour le reste, c'est le médico-social, le privé, le privé non lucratif, le privé lucratif. D'ailleurs, le tissu associatif et nous autres, les mouvements d'usagers, sont rentabilisés. Nous sommes enfin valorisés, puisque, par exemple, les groupes d'entraide mutuelle ne sont certes pas les groupes d'entraide mutuelle qui sont normalement autogérés par les patients, normalement. C'est le cas que pour un quart de cégep à peu près, un quart ou un cinquième. Les groupes d'entraide mutuelle ne sont pas des établissements sociaux et médico-sociaux, mais s'intègrent dans le tissu de la prise en charge territoriale en santé mentale. Bien, un tel enseigne que moi-même, qui suis président d'une nation de paranoïaques contestataires, je peux me prévaloir d'être un aidant qui, par son militantisme et par le réseau constitué, s'intègre également dans les prises en charge. Je peux le dire, je peux toujours le soutenir. Même si l'on estime que je suis un de ces patients querulants, contestataires, machin truc, qu'il faut expulser, expurger, etc. Donc, je veux dire, on se demande à quelle finalité. On se demande pourquoi faire, étant donné que dès 2016, lorsque la contrôleure générale des privations de liberté, Mme Azan, avait mis une focale avec son équipe sur ses rapports et recommandations en urgence sur les pratiques d'isolement et contention, ce qui avait amené ce qui s'était fait conjointement à la traçabilité de 2016, instaurée par législation de 2016. Les rapports se succèdent, le gouvernement fait des déclarations de bonnes intentions et ces pratiques d'isolement-contention vont en hausse. Ou bien, quand ce n'est pas en hausse, le nombre reste constant. En plus, les réformes s'accumulent et les équipes hospitalières et les tutelles protestent en disant « avec ces réformes, on ne peut plus rien faire, on est obligé de démissionner et de quitter la psychiatrie publique parce qu'on ne peut pas se passer d'isolement et de contention ». Parce qu'il y a un mouvement de démission. Donc, et plus il y a un mouvement de démission, plus dans des équipes raréfiées, aux moyens raréfiés, ils disent que c'est légitime de servir de l'isolement et de la contention, par voie de restriction de moyens.
Et donc, dans ce contexte, c'est très difficile pour un patient de faire valoir ses droits et d'être même informé de ses droits.
Ben, c'est-à-dire que si c'est fait et quand c'est fait, on est en train de défendre un cas pour un dossier pour une personne réintégrée en soins sans consentement à Cholet. Si c'est fait, c'est fait de façon, comment dire, formelle. formelle. Parce que quand, dans l'hypothèse où vous êtes admis dans un établissement psychiatrique en pavillon, en soins sous contrainte, vous êtes médiqué, on vous remet une notification de droit, vous êtes ignorant en droit, vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire. Bien. Et quand vous voyez l'audience d'abattage qui, en plus, depuis le confinement, est devenue une visioconf, ou bien vous n'êtes même pas convié à l'audience, par précaution, parce qu'il ne s'agit pas de contaminer le juge, et l'avocat commis d'office va vous dire que si vous n'avez pas un PCR négatif, moi, elle ne va pas risquer la peau vieille de machin truc. Donc, hop. Bon, donc quand vous avez vu cette mascarade de justice, vous vous dites, moi, je ne suis plus rien. Je suis tout simplement plus rien. Il me considère comme un déchet, je suis un objet d'eux, voilà, c'est ce que se disent la plupart des patients. Et donc, quand ils en sortent, le moins qu'on puisse dire, c'est que n'ayant plus confiance en eux, n'ayant d'eux-mêmes qu'une image ultra négative de par leur parcours, leur maladie, etc., et ce qui s'est passé, là, je veux dire, c'est l'effondrement complet. Bon, l'effondrement psychique, l'effondrement de la personne. Donc, tout cela, c'est absolument lamentable. Alors, reprenons maintenant... par une autre dépêche donc du 27, Hospimédia, sous la rédaction de Mme Caroline Cordier, journaliste spécialisée, apprenait donc que le Conseil constitutionnel est de nouveau, pour la troisième et quatrième fois maintenant, depuis 2020, et de nouveau interrogé sur la constitutionnalité de certaines dispositions de la législation relative à l'isolement et la contention, qui a été déjà réformé à deux reprises, qui va être réformé en cas de censure à une troisième reprise. Et il faut savoir que lors de la deuxième réforme de 2021, ça a prêté lieu à un gymkhana pas possible, puisque le Conseil constitutionnel avait supprimé comme cavalier social la disposition que le législateur avait introduite pour la deuxième réforme, comme ne faisant pas partie, n'étant pas lié immédiatement au projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2022, donc etc., etc. Ça a été un sou complètement, une histoire de fou, pour tout dire. Donc,
fou et de cavalier.
C'est ce qu'elle veut dire. Un parcours hallucinant. Alors donc, j'avais fait circuler l'information, notamment pour que nous puissions nous constituer devant le Conseil constitutionnel, ce qui a été fait le 30 par des écritures très bien faites de maître Jean-Marc Panfili, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne et ancien cadre supérieur de santé à l'hôpital de Montauban. Alors mon introduction avait consisté à dire, pour solliciter maître Panfili et les gens du bureau du CRPA, d'après une dépêche d'Hospimédia d'aujourd'hui, du 27 janvier en pièce jointe, la Cour de cassation première civile a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en provenance du juge des libertés de la détention de Rennes au Conseil constitutionnel le 26 janvier courant sur l'isolement contention tel que réformé début 2022. Cette question porte sur l'article sur l'isolement contention 32.22.5.1 Code de la santé publique qui ne prévoit pas d'information du patient immédiatement lorsqu'une mesure d'isolement est initiée. D'après le texte actuel, l'information n'est délivrée que pour le maintien au-delà de 24 heures d'isolement à destination des proches, mais non à l'intéressé lui-même. On ne juge pas bon que l'intéressé lui-même soit informé, puisqu'il subit, donc il a une information dans sa chair, quoi, en quelque sorte, et pour les voies de recours, ce n'est pas de son ressort. Notre association pourrait intervenir sur ce point au renfort du requérant et de sa défense, d'autant plus que l'article L3211-3 du Code de la santé publique sur les droits des personnes en soins sans consentement, les droits incompressibles, ne prévoit pas actuellement la délivrance de cette information spécifique aux pratiques d'isolement et de contention immédiatement, ab initio, au début. L'information prévue par l'article L3211-3 sur les droits des personnes en soins sans consentement porte sur la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques, la mesure elle-même et non ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ce qui se passe, c'est que dans le cas d'une hospitalisation sans consentement, l'isolement avec ou sans contention est une mesure privative de liberté à l'intérieur d'une mesure privative de liberté. Donc en fait, l'article L3211-3 sur les droits des patients en soins sans consentement, portant sur l'information et les droits des malades en hospitalisation, dans la mesure elle-même, ne prévoit pas de droits spécifiques pour les personnes en soins, en isolement contention, et ne prévoit pas l'information du patient. Bien. En isolement contention. Donc c'est vrai que c'est un vide, et que c'est un vide qui interroge, puisque en application des dispositions de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme, comme de la Constitution, toute personne privée de liberté doit être informée dès le début, ou aussitôt que son état le permet, mais a priori c'est même dès le début, de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours. Bien. Alors, deuxième QPC, la Cour de cassation mentionne également son site internet pour le 26 janvier 2023, la transmission d'une autre question en provenance du juge des libertés et de la détention de Bobigny relative à l'isolement contention. Cette question porte sur le fait que lors d'une audience du juge des libertés et de la détention hors présence, alors ça c'est les dispositions qui ont été prises avec les confinements en 2020, bien, pour garantir contre la pandémie, pour garantir le personnel judiciaire. Alors à ce moment-là, l'intéressé n'est pas présent à l'audience, mais son avocat non plus. Or, il y a là, selon la jurisprudence sur les droits de la défense, une violation du droit à la défense, une violation au droit au procès équitable, bien, et donc la non-constitutionnalité de cette disposition est interrogée. Alors, donc nous intervenons, normalement notre action est recevable, donc ça n'a pas posé de problème, on va être envoyé. Alors donc on soutient les deux QPC, mais néanmoins, on se pose, nous en tant qu'association de personnes psychiatrisées et de justiciables, association de personnes concernées, la question suivante. Puisque dans la procédure de contrôle judiciaire de l'isolement contention, il est prévu expressément, surtout depuis la pandémie, depuis 2020, qu'on peut se passer de la présence du malade. Parce que, c'est, en gros, c'est un contrôle sur dossier. Alors, la question qui se pose, c'est doit-on évincer du théâtre judiciaire les protagonistes eux-mêmes, et y compris leurs proches, parce qu'ils pourraient être contagieux. Et là, ça me fait penser à ce parallélisme en sens contraire, un oxymore, entre le fonctionnement de l'institution judiciaire dans la Grèce antique, il y a 25 siècles, quand la démocratie a été inventée ou initiée, qu'on fait une émission sur la chaîne publique Assemblée nationale, SCP d'hier, du 26 janvier, 19h30, 20h30, où l'avocat, dans l'agora grecque, enfin dans la scène judiciaire grecque il y a 25 siècles, était un souffleur absent du prétoire qui indiquait aux plaideurs, aux justiciables ce qu'il devait dire ou ne pas dire, donc il n'était pas présent sur le prétoire. Le fonctionnement, en comparaison du fonctionnement actuel, où les justiciables sont devenus gênants pour l'institution judiciaire qui tend à les évacuer hors prétoire, ça se passe entre professionnels, voir le processus d'automatisation de la production des décisions judiciaires actuellement en cours, voire Paris, le nouveau palais de justice de Paris, dans le cadre de l'impératif gestionnaire de rentabilité à moindre coût dans la fonction publique. Donc il y a un phénomène constant où le justiciable était quand même présent, c'est plutôt l'avocat qui était une pièce annexe, à maintenant le justiciable on n'en a pas besoin, c'était juste sur le dossier, paf, 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 en avant, dehors, allez, paf, en 5 minutes de temps, expédié. Bon. Donc si jamais il y a une censure, une inconstitutionnalité sur ce point, notre action remettra dans les travaux parlementaires la question du fait que les aidants, les personnes de confiance, les personnes que les malades connaissent, doivent pouvoir intervenir dans le contrôle judiciaire. Parce que je pense que ça, si là-dessus des avocats sont pleins, cela a trait à la volonté corporatiste d'avoir la main entière sur ce contrôle judiciaire. Bon, ce qui d'ailleurs pose problème à l'extension continue du monopole de la représentation obligatoire par avocat dans l'ensemble des procédures judiciaires depuis une trentaine d'années, ça éloigne le justiciable des juges.
Oui, un intermédiaire.
Plus qu'un intermédiaire, c'est un filtre.
Ah oui, oui.
Parce qu'il y a la question, que si vos écritures doivent être signées par un cabinet d'avocats, si vous devez être en audience obligatoirement représenté par avocat, si vous n'avez pas le droit de vous-même de plaider votre cause devant le juge, il y a ce problème de comment vous accédez au prétoire, puisque soit c'est par le biais de l'aide juridictionnelle, soit vous payez des honoraires. Or, il faut savoir que la plupart des gens dans ce pays, dans ce qu'ils ont comme ressources et comme patrimoine, puisque le patrimoine rentre également dans le calcul de la juridictionnelle, la plupart des gens n'ont, un, pas droit à la vie, deux, pas de quoi payer les avocats. Puisque la plupart des personnes sont à revenus intermédiaires.
Ah oui.
Bon. Donc, cela veut dire l'extension systématique de la représentation obligatoire par avocat dans les procédures. Cela veut dire que la majeure partie de la population dans ce pays est exclue du fonctionnement judiciaire courant. Sauf à faire de la délinquance et à comparaître en comparution immédiate. Parce que là, c'est facile. Là, c'est très simple. Donc, la question est pour de bon dramatique. Il est connu que l'accès aux tribunaux et à la justice, pour le bas de gamme de la société, se fait par la répression. Bon. Donc, alors, Maître Pamphili va nous représenter dans ces deux instances son mémoire. Oh ben, je vais essayer de le publier bientôt sur le site de l'association, ainsi que sur les comptes de la Folie Ordinaire. Et alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il va y avoir une question de droit qui va être de droit pur qui va être soulevée à l'occasion de cela, s'il y a une inconstitutionnalité. C'est pour quelle raison l'article 3211-3 du Code de la santé publique sur les droits des personnes admises en soins sans consentement, les droits dont on dispose en tout état de cause, pour reprendre ce. Pour quelle raison ça ne s'applique pas immédiatement pour les personnes en isolement contention? L'article sur l'isolement contention a été introduit par amendement du député Denis Robillard dans la loi santé du 26 janvier 2016. Et c'était une loi santé générale sur les groupes hospitaliers de territoire, etc., etc. Et il y avait un volet santé mentale dans cette loi, qui a d'ailleurs été introduit par le ministère de la Santé par un amendement gouvernemental, l'article 69. Et le député Denis Robillard, qui était frondeur, PS frondeur de la gauche du PS, avait longuement travaillé avec les différents protagonistes du terrain, dont nous d'ailleurs, sur un amendement spécifique pour introduire la traçabilité de l'isolement et la contention, que ces pratiques soient tracées sur un registre administratif, ce registre pouvant être accessible pour les autorités administratives de contrôle, contrôle général des privations de liberté, parlementaires inspectant des établissements psychiatriques, puisque ça a été introduit, les autorités administratives, la commission départementale des soins psychiatriques, mais également le registre de l'isolement contention des établissements étant un registre administratif, pouvant être sollicité par des plaideurs, par des intéressés, bien, ou par des associations spécialisées. Bon, à charge, voulant savoir comment fonctionne tel établissement, bon, ou un thésard, ou des personnes faisant une thèse. Des personnes faisant une thèse peuvent demander à se procurer des registres d'isolement contention pour étudier, pour leurs travaux universitaires, comment fonctionne tel établissement. Hein, d'accord. Donc, alors, il se trouve que cet amendement du député Denis Robillard incluant une définition d'isolement contention et commençant à donner des droits aux malades, hein, bien, avait été introduite dans le cadre de la réforme dans la loi santé de l'organisation territoriale de la santé mentale. Donc, en fait, cet article sur l'isolement contention avait été introduit dans un chapitre du Code de la santé publique sur l'organisation territoriale en santé mentale. Et pas du tout dans les chapitres 1 à 4 du Code de la santé publique réservés aux hospitalisations sans consentement, au programme de soins et aux droits des patients. Si bien qu'au plan de ce qu'on appelle la légistique, l'organisation du droit, la codification du droit, on n'est pas formellement dans le bon chapitre. Donc, si jamais il y avait une censure, ce serait le coup que le législateur soit déplace cet article de loi sur l'isolement contention, soit mette un alinéa supplémentaire raccordant l'article de loi sur l'isolement et la contention au chapitre sur les droits des malades en soins psychiatriques. Ce qui permettrait de rendre efficace l'article spécifique sur... Bon, donc il y a ces questions de droit. Mais plus largement encore, une question, toujours la même. Ces pratiques sont interrogées et dénoncées comme barbares depuis des années. il n'y a pas de réduction. Depuis des années, le gouvernement, les instances siégeant auprès du gouvernement, baratinent à longueur de temps sur la nécessité de prendre des mesures en vue d'une réduction drastique de ces mesures. Ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et en plus, on embauche des usagers de service, qui sont des fous de service en quelque sorte, pour cautionner leur baratin et pour participer à ces dits travaux, alors qu'on devrait réaliser les uns les autres qu'en servant de caution à des travaux qui ne débouchent pas, bien, on cautionne un système dans lequel les autres malades, hein, en prennent plein la figure, sortent des établissements traumatisés à vie, et nous, on aura servi de caution. Donc moi, au bout d'un certain temps, ça fait... Moi, j'ai tranché fin 2019, entre 2018 et 2019, je refuse de participer à une mascarade pareille, moi. Un point, c'est tout. Je refuse de participer à ça. Je ne considère pas avoir milité sur une trentaine d'années pour en arriver là. Hein? Donc ça pose donc un véritable problème.
Voilà, donc on retourne au direct. On vient d'entendre un extrait de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Medafina à Babylone. Et on va écouter maintenant L'Enfermé à partir d'un poème de Gaston Couté.
Leur solde. Ils la fumaient d'avance, tranquillement.
Je vis chez mes enfants parce qu'on me trouve berlaude. Ils me coupent du pain blanc, rapport à mes dents. Ils me donnent de la soupe, bain grasse et bain chaude, et du vin avec deux bouts de sucre dedans. Ils font du bainaise, rapport à mon âge, mais ça c'est le médecin qui en décause bien sûr. Ils m'enferment dans le clos comme une pie en cage, et je peux pas aller plus loin que les quatre murs. La porte, ils veulent pas me l'ouvrir. La porte, quoi que je les ai fait, qui veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la-moi donc la porte. Et les beaux faucheux qui partent en besogne, non, je sais pas Berlaude, j'ai tous mes esprits. Je suis même corps solide et j'ai forte pogne. S'il vous faut quelqu'un pour gerber, venez me crier. Je voudrais ben aller au champ comme tout le monde. J'ai honte de rester comme ça sans œuvrer. À cette heure qui fait doux et que la terre est blonde, si vous me défermez, c'est vous qui hériterez. La porte, ils veulent pas me l'ouvrir. La porte, quoi que je les ai fait, qui veulent pas que je sorte. Mais ouvrez-la-moi donc la porte. Et mon beau Jean-Pierre, qui est déjà qui fauche, ils disent que je sais vieille, mais tu sais ben que non. À preuve, c'est que je sais corps, si tellement gauche, que je fais le coquelicot en disant ton nom. Va, je nous marierons tout de même et quand même, malgré que t'es pas de coué pour la dot que j'ai. Viens t'en me défermer si c'est vrai que tu m'aimes, et courons acheter le bouquet de rangée. La porte, il veut pas me l'ouvrir. La porte, quoi que j'y ai donc fait, qui veut pas que je sorte. Mais ouvre-la-moi donc la porte. Mais le galant que j'appelle, c'est défunt mon homme. Mais les beaux faucheux passent pas de ce temps-là. Mais ça serait donc vrai que je serais Berlaude comme il raconte terre tout, il fait du verglas. Pourtant y a quelqu'un qui passe à la porte, c'est monsieur le curé, les chantes et le bedion, qui viennent défermer sur terre les vieilles mortes pour les renfermer dans le champ au navio. La porte, on me l'ouvrira bien. La porte, jour de l'enterrement, faudra bien que je sorte. Et vous l'ouvrirez, que je dis, la porte.
L'enfermé, chanté par Michel Desproges, un poème de Gaston Coutet. Et nous reprenons autour de la contention, l'isolement, la psychiatrie avec André Bitton du CRPA.
Oui, alors merci pour la mélodie précédente parce qu'elle est représentative en effet de ce qui se passe dans les terroirs en France concernant le bâillon psychiatrique sur les populations du bas de tableau. C'est parce que dans les provinces, l'hôpital psychiatrique est une véritable bastille. Les gens sont terrorisés. Donc il y a eu une dépêche de l'Associated Press qui a été reprise dans Le Monde début du mois de février. Et donc l'agence de presse américaine Associated Press déconseille d'écrire les Français, c'est une généralisation déshumanisante. Il s'agit du livre de style de l'agence américaine, la principale agence de presse américaine, qui a eu la mauvaise idée de recommander sur les réseaux sociaux d'éviter les étiquettes globales du type telles que les pauvres, les malades mentaux, les Français, les handicapés, les diplômés. Alors là, on voit que les Américains, qui ont l'habitude de se foutre de la gueule des Français, plus précisément depuis 2003, avec la guerre en Irak, et même avant, ils n'aimaient pas De Gaulle, en 1945. et qui sont courants notamment via le Québec de l'arriération de la psychiatrie française, s'en servent, mais alors allegro presto. Alors, il y a eu près de 10 millions de vues et 12 000 retweets à midi, heure de Paris. Le message des auteurs du livre de style de l'agence américaine Associated Press, qui prodiguait jeudi 26 janvier leur conseil rédactionnel, n'est pas passé inaperçu. Nous recommandons d'éviter les étiquettes globales et souvent déshumanisantes de type les pauvres, les malades mentaux, les Français, les handicapés, les diplômés. Utilisez plutôt des mots tels que personne atteinte de maladie mentale. Très français, et n'utiliser ces descriptions que lorsqu'elles sont clairement pertinentes. Alors, tweet publié le 26 janvier, bien. Alors, plusieurs journalistes suggèrent ironiquement depuis, le sentiment anti-français aux USA est assez puissant, surtout que Trump est passé par là, et là, franchement, et puis il y a une espèce de retenue de la France dans le conflit russo-ukrainien. Donc, les journalistes suggèrent ironiquement d'utiliser le vocable « personne en situation de francité ». Personne souffrant de francité, le très neutre personne d'expérience française, assigné français à la naissance, propose. Alors, une autre journaliste propose personne faisant l'expérience d'un croque-monsieur, quelqu'un d'autre. Je suis presque sûr que c'est juste Les Misérables. Mon film préféré est Connexion avec la francité, et non de la French Connection, marseillaise. Vu de l'étranger, le paradoxe des passions tristes françaises, les twittos sont allés à la recherche des articles sur les Français, remontant grâce à Internet assez loin dans le temps. « Vous êtes malheureux dans la vie, vous pourriez être français », titrait un article de CNBC qui relatait en 2013 l'effet de la crise sur les Français en dépit de leur filet social, dont les Américains ne profitent pas. On se souvient d'un commentaire télévisuel expliquant en 2018 à propos des frasques sexuelles de Donald Trump. C'est presque français. AP n'est guère suivi. Les Français, il y en a partout dans la presse américaine. Pourquoi les Français veulent arrêter de travailler? New York ne peut pas quitter les Français. Certains s'énervent. Est-ce que vous n'êtes pas Associated Press? Demande Pete Woods. Et un autre répond. Et puis à la fin, quelqu'un pose la question qui taraude. Mais qu'est-ce que les Français t'ont fait? Rien, absolument rien, comme l'atteste manifestement le mail de Lorraine Easton, vice-présidente chargée de la communication chez AP. La référence aux Français ainsi que la référence aux diplômés est un effort pour montrer que les étiquettes ne doivent être utilisées pour personne, qu'elles soient traditionnellement stéréotypées comme positives, négatives ou neutres. Mais pourquoi choisir les Français comme exemple? Qu'il nous soit permis de gamberger, trouver une nationalité qui ne prenne pas offense ne semble pas si facile. Pas de peuple non occidental pour éviter tout soupçon de racisme ou de colonialisme. Pas d'ancien ennemi comme les Allemands, cela eût été maladroit. Pas de Polonais, d'Italiens trop nombreux aux États-Unis. Les Français, c'est parfait. Allié officiel depuis que Lafayette, sous la France de Louis XVI, a permis à George Washington de conquérir l'indépendance des États-Unis. 1776-1787, ennemi inconscient de toujours pour de multiples raisons détaillées dans Slate dans son article de 2011 « Pourquoi les Américains détestent les Français ». Pendant la dernière période de francophobie aiguë, l'invasion américaine de l'Irak en 2003, Villepin aux Nations Unies, les méchants d'un film à l'origine espagnole avaient été transformés en français, tandis que George Bush, fils, avait accusé son adversaire démocrate à la présidentielle de 2004, John Kerry, d'avoir l'air français. À cette époque, la brouille franco-américaine était sérieuse, mais ce jeudi 26 janvier, les Français ont bien rigolé. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'en réalité, l'exception française sur l'internement psychiatrique administratif a bel et bien été stigmatisée dans les organismes internationaux pendant longtemps comme étant une arriération française. Et que, aux dernières nouvelles, dans l'Union européenne et dans les pays de l'OCDE, la France a été le dernier pays à judiciariser son internement. Et que l'ensemble des travaux académiques sur les mouvements de patients, dont ceux depuis 2000 développés par le centre collaborateur OMS, le PSM Lille Métropole, autour de Jean-Luc Rolante, a bien consisté à acclimater en France des dispositifs italianistes et québécois, avec des voyages pour les pères aidants, les responsables de GEM français, de groupes d'entraide mutuelle français, au Québec, pour aller voir comment il s'y prenait au Québec. Et moi-même, j'ai échangé des correspondances avec M. Alain Massot, sociologue québécois, francophone. Francophone, ben, le Québec défend la langue française, ce que le CCMS et ce que le monde psychiatrique en santé mentale français devrait faire. Parce qu'ils ne défendent pas du tout la langue française. Alors là, tu peux y aller, empowerment, etc. Et donc, j'avais demandé expressément à M. Alain Massot, dans le feu des polémiques qui m'opposaient aux gens des institutions, de faire connaître la situation française autour de lui et celle que nous affrontions. Donc, je veux dire, ça n'a rien d'étonnant que les Américains finissent par s'en emparer en se foutant de la gueule des Français, ce qui est un de leurs jeux, de même que la France gouvernementale est américanophobe. De Gaulle. De Gaulle, simplement. Bon, voilà.
Eh bien, merci André pour ces nouveaux éclaircissements autour de la psychiatrie et du droit des patients.
De la géopolitique.
Et en plus, voilà. Au revoir, nous vous disons à la semaine prochaine et nous allons enchaîner avec un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée dans quelques secondes.